J'aimerais partager avec vous un chapitre complet. Alors, on ne va pas le lire, mais on va aller piocher de temps en temps dans ce chapitre. Alors, ce qui est incroyable, c'est que j'ai intitulé cette prédication Confier sa vie à Dieu. C'est bizarre. Alors, bien sûr, quand on parle de confier sa vie à Dieu, il y a un petit mot derrière qui vient, c'est la confiance. Et le texte qu'on va prendre, il n'est pas anodin, bien sûr, on connaît, c'est le moment où Paul dit qu'il doit aller devant César. Et bien sûr, on emmène Paul devant César. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas d'avion, on y allait en bateau. D'accord. Donc, on va juste prendre le début, les deux premiers versets. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et. Ah, pardon, acte 27. Excusez-moi, j'étais déjà parti. J'étais en TGV déjà, alors que je parle de bateau. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adrimati, qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, Macédonien, et de Thessalonique. Pardon. Alors, ici, Paul et ses amis, on va dire, vont effectuer une traversée afin de se rendre à Rome. C'est bien expliqué. C'est une réalité historique, mais c'est aussi l'image des hommes qui naviguent sur la vie et sur les eaux mouvementées du monde actuel. Dieu ici propose de rencontrer, il propose de le rencontrer. Vous allez voir de quelle manière tous les occupants du bateau vont rencontrer l'Éternel. Bien sûr, il propose de le rencontrer pour les amener à bonne destination. C'est ce qu'il veut faire pour chacune de nos vies. Il veut nous rencontrer pour nous amener à la bonne destination. La tempête qui s'est abattue, dans la suite on le verra, ça représente toutes les intempéries qu'on a dans nos vies. Toutes ces tempêtes, toutes ces choses qui bouleversent complètement notre bateau et notre vie sur Terre, tout simplement. Et pourtant, on est parti pour se rendre vers quelque part, vers une destination. Alors, ce qu'on peut lire ici, c'est que les uns pourraient dire, ben oui, mais bon, il est Paul, il va rien lui arriver parce qu'il est protégé. Mais quand on lit la suite, il a subi exactement les mêmes tracas que ceux qui étaient avec lui. Donc les choses sont aussi bien pour les inconvertis que pour les convertis. Il n'y a aucune différence. C'est pour tout le monde pareil. Et ça, je dis ça pour les gens qui pensent que peut-être, ben oui, moi je suis à Christ, il va rien arriver. C'est faux. C'est totalement faux. Et on va voir pourquoi, au contraire, parfois, il faut qu'il nous arrive quelque chose. Au verset 11, donc il y a tout l'épisode où ça a été tranquille, ils ont vécu un moment tranquille. Au verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Le centenier est confronté à un choix important. Soit il écoute les spécialistes, vous savez, les hommes de métier, ceux dont on est sûr que ce qu'ils vont nous dire, ça va être bien, ou alors on écoute Dieu qui va parler au travers de son serviteur. Et on est souvent confronté à ce genre d'alternative dans nos vies. On doit prendre une décision. Et ça, c'est souvent l'opposition entre la chair et l'esprit. C'est-à-dire qu'on va prendre une décision par rapport aux choses du monde, par rapport à ce qu'on est en train de traverser, oubliant, ben comme l'a dit Catherine, que c'est l'Éternel qui est à la barre. Et ça nous pousse parfois dans une direction qui est complètement à l'envers des plans de Dieu. Et si on va en Galates, Galates chapitre 5, ce coup-ci je vais vous le dire. C'est l'opposition, vous savez, tout ce texte qui parle de l'opposition entre l'esprit. Alors, chapitre 5, à partir du verset 16. Rachetez. Je dois pas être bon. Là, je suis en Éphésiens, c'est sûr. Ouais. Je suis allé un petit peu trop loin. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns sur les autres. Donc voyez ici qu'on parle vraiment d'une opposition entre les choses de la chair et les choses de l'esprit. Et ce centenia a été confronté à ces choses-là. Il a été confronté aux choses terrestres, à peut-être l'expérience humaine, plutôt que d'écouter Paul, qui lui avait une expérience céleste au travers de Dieu. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que souvent, on est pressé à faire des choses qui sont complètement déraisonnables. Et c'est Dieu qui nous presse à faire ces choses complètement déraisonnables. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il va nous dire? Et bien sûr, elles sont déraisonnables et elles sont passages sur le plan humain, sur le plan de ce monde, parce que ça va à l'opposé des choses du monde. Quand on parle de pardon, quand on parle de grâce, quand on parle de miséricorde, quand on parle d'humilité, quand on parle de renoncement à soi-même, c'est absurde. Ça veut peut-être dire qu'on n'a pas de caractère, mais ça ne veut pas dire ça du tout. Ça consiste en fin de compte à s'humilier et reconnaître qu'on n'est rien face à la majestuosité de Dieu, face à la grandeur de Dieu. Ça veut dire qu'on dépend de lui. C'est ce que ces versets commencent à dire tout doucement. Et bien sûr que ce qu'on va faire, ça va être complètement opposé à l'esprit de ce monde, puisque l'esprit de Dieu est opposé à l'esprit de ce monde. Est-ce que ce matin on est opposé à l'esprit de ce monde ? Est-ce que quelque part on n'est pas fou par rapport à ce monde et intelligent par rapport à Dieu? Est-ce que j'obéis à Dieu plutôt que d'obéir au monde? Ce centenier va obéir aux hommes et on va voir jusqu'où ça va l'amener. On a eu Abraham qui, concernant sa postérité nombreuse, qui a voulu faire et remplacer les plans de Dieu en disant, ben voilà, mon héritier sera Eliezer, parce que Sarah ne pourra jamais avoir d'enfant. Voilà, je vais choisir Eliezer comme mon fils adoptif. Et même en ayant eu les plans clairement de Dieu devant ses yeux, il a écouté sa femme. Sa femme qui lui a dit, bah, écoute, moi je suis trop vieille, va vers Agar, ma servante. Même lui, qui, comme le dit, il avait une intimité aussi avec Dieu, il a préféré écouter la voix qui était en lui et qui lui disait, ben, je vais écouter ma femme. Et parfois, dans nos vies, c'est exactement la même chose. On trouve ce texte en Genèse, chapitre 16, verset 2, et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Et voilà, il a écouté la voix de sa femme plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, comme Abraham, on a tendance à écouter les voix humaines, les voix discordantes, qui nous disent de faire autre chose. Et parfois on prie, on dit « Seigneur, voilà, je te donne ma vie, je te donne ceci, je te donne cette situation. » Il y a quelqu'un qui arrive et qui nous dit « Ah ben pourquoi tu fais ça ? Moi j'aurais fait ça. » Et puis comme ça nous arrange, on va dire « Ah ben ça vient de Dieu. » Et puis on suit ce que la personne nous a dit. Puis dès que ça commence à être un petit peu catastrophique, on s'aperçoit que ça ne vient pas de Dieu. On a tendance peut-être à faire confiance à notre expérience, à nos pensées. Et ça peut nous conduire dans des situations extrêmement délicates qui n'entrent aucunement dans les plans de Dieu. Et on va traverser des mers qui vont être énormes, énormes. Alors que les desseins de Dieu, à notre égard, étaient bienveillants. C'est lui qui aurait dirigé notre bateau. Et on a laissé diriger notre bateau par quelqu'un d'autre. Et on se retrouve alors dans des situations périlleuses, extrêmement périlleuses. Le verset 13, magnifique. Là, j'ai la conviction que c'est le Seigneur qui me conduit. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Un léger vent du sud. Merci Seigneur, je suis ce que tu me dis de faire, puisque c'est toi qui m'envoies. Ben oui, ils n'ont aucune contradiction, tout va très bien, dans le meilleur des mondes. On a l'impression qu'on a pris la bonne décision. Et ils sont rassurés, faussement rassurés, sur la décision qu'ils ont prise. Et en fait, bon, ils ont dit, ben voilà, tout compte fait, j'ai bien fait de... d'aller dans ce sens-là. Et c'est souvent ce qu'on fait dans nos vies. On a l'impression que, bah oui, je peux contrôler cette situation-là. Je peux en contrôler la destinée, puisque tout se passe bien pour l'instant. Et quand on n'écoute pas les indications de la parole de Dieu, qu'on s'oriente vers nos penchants et les penchants de son cœur, on peut parfaitement bénéficier pendant un moment d'événements favorables, qui nous donne l'impression que oui, on est dans les plans de Dieu. Et on en déduit bien sûr que ben, le Seigneur bénit et approuve cette situation. Voilà. Ben, merci Seigneur parce que je suis dans tes plans. Si pendant un moment la situation semble avantageuse, et c'est ce qui va arriver ici, c'est en fin de compte la traduction de la grâce de Dieu à notre égard. Et surtout, sa patience, qui est ici pour, pas pour appuyer et soutenir ce qu'on a fait, c'est-à-dire dire, bah, écoute, tout compte fait, je suis d'accord avec la décision que tu as prise. Eh non, pas du tout. Mais c'est en fin de compte pour nous amener à nous convaincre du péché et nous amener à la repentance. Le Seigneur nous laisse aller dans cette galère. Voilà. Il dit voilà, je vais même laisser et t'aider pendant un moment. Et quand tu vas t'enfoncer, c'est là où tu verras le péché. C'est là où tu verras que tu as besoin de moi. Romains chapitre 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Si on avait un Dieu rempli de colère, on serait foudroyé la première fois où on lui désobéit. Mais il nous laisse aller. Il nous laisse prendre la mer avec notre petit bateau, avec nous, tenant la rame du bateau, croyant que la mer va toujours rester d'huile, alors que l'Éternel sait parfaitement que la mer ne restera pas d'huile. Il va arriver une tempête monstrueuse. Et c'est le deuxième point. La traversée et les mesures salutaires, ce qu'il faut faire. Au verset 14, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Voyez le terme qui est employé ici, se déchaîna. Ça montre l'ampleur de la tempête, l'ampleur de la tempête qui peut arriver dans notre vie. Et qu'est-ce qu'on va faire si on est parti à l'encontre des commandements de Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire si je me résigne à dire « c'est moi qui conduis ma vie, c'est moi qui tiens le manche ». Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est moi qui tiens le manche. Sans l'intervention divine du Seigneur, le bateau aurait explosé. Paul, ainsi que tous les passagers, auraient été au fond de la mer. Est-ce qu'on a conscience de ça quand on lit ce chapitre? Est-ce qu'on a conscience parfois que dans nos vies, sans l'intervention divine de Dieu, on serait mort? Et quand je dis mort, je ne parle pas seulement de mort physique, mais je parle également de mort spirituelle. Est-ce qu'on en a conscience? Versets 16 et 17. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la cire, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Des mesures sont prises afin de lutter contre les éléments. Ah bien sûr, quand on lit ces deux versets sont extrêmement précieux. Ces versets nous indiquent ce qu'il faut faire dans notre vie pour l'intervention divine. On va voir ça ensemble. Premièrement, le premier jour de la tempête, bizarrement, c'est bizarre. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris toute la cargaison pour alléger le bateau et je l'aurais jeté. Qu'est-ce qu'ils font, eux? C'est quoi? Ils prennent la chaloupe. Après avoir hissé, ils ont hissé la chaloupe à l'intérieur du bateau. Vous savez, la petite chaloupe, le bateau de secours, qui est traîné par le bateau avec une corde de 10 mètres de long. Bizarrement, ils rentrent la chaloupe à l'intérieur du bateau. Moi, j'aurais pas fait ça. Mais en fin de compte, ce geste a une portée extrêmement spirituelle, bien sûr. La chaloupe, c'est tout ce qui concerne la vie du chrétien dans une situation périlleuse. Quand on est ballotté par la houle, quand on est ballotté par les vents, c'est-à-dire les épreuves, pendant la traversée, pendant notre vie, ça représente l'intimité avec Dieu. Et tous les moyens qui sont pour avoir cette intimité, la lecture de la parole, la méditation des Écritures, la prière, la communion fraternelle, c'est toutes ces choses qu'on amène dans notre vie. Et il n'est pas question de laisser ces choses derrière soi, comme la chaloupe qui était attachée derrière le bateau. Ces choses, on doit les avoir dans nos vies en permanence. eux, ce qu'ils ont fait, la première chose, c'est qu'ils ont dit, on ne peut même pas dire qu'ils vont dire, ben, on va le garder au cas où le bateau explose. Parce que même le bateau ne résistait pas à la tempête, qu'au moins une petite chaloupe aurait pu résister à la tempête. Donc cette image montre vraiment qu'il faut garder ces choses dans notre vie. La méditation de la parole, la prière, la communion fraternelle, toutes ces choses qui sont l'essence même de la vie du chrétien. On rentre cette chaloupe. Il faut les posséder, il faut les expérimenter dans notre vie et les garder. La deuxième chose, c'est que le navire est saint. C'est-à-dire qu'on va prendre des cordes, on va lier tout le tour du navire pour éviter qu'il explose, qu'il se disloque. C'est ce qu'ils faisaient en ce temps-là. Parce que je vous rappelle que les bateaux n'étaient pas en métal, mais ils étaient en bois. Alors vous imaginez, sur une mer déchaînée, le bateau, suivant l'âge, devait se disloquer de tous les sens, au risque d'exploser. Ils ont saint la coque du navire pour éviter la dislocation. Et ça, ici, on parle de la ceinture de vérité. Cette vérité qu'on doit avoir en nous, que tout disciple de Jésus doit avoir et porter. En Proverbe 23, « Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. » C'est un ordre de l'Éternel. « Acquiert la vérité. » Ils avaient besoin de ça pour éviter l'explosion du navire, pour éviter que notre vie explose. On a besoin de la vérité de Dieu dans notre cœur. On a besoin de ceindre notre vie de cette vérité. On a besoin de marcher dans cette vérité. Et c'est ce qui a sauvé Paul et ses passagers. C'est qu'ils ont ceint de la vérité ce bateau. Troisième point, le deuxième jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que moi j'aurais fait tout de suite. Ils ont jeté à la mer, au verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jetait la cargaison à la mer. Ils ont tout jeté à la mer. Quelle décision! Quelle décision! En ce temps-là, il n'y avait pas d'assurance. Quand le bateau était là pour emmener de la marchandise d'un port à un autre, il n'y avait aucune assurance, d'assurance de perte de cargaison. Eux, ils ont pris une décision, ils ont tout jeté. Tout jeté ce qu'ils ont embarqué avec eux. Ça vous fait penser à rien? Tout jeté ce qu'ils ont embarqué. Et souvent, ce qu'on doit faire, nous, dans nos vies, c'est ça. C'est tout jeter, ce qu'on a emmené volontairement ou involontairement dans notre vie. Combien de personnes ont des remorques? Combien de personnes ont des sacs à dos? Et toute leur vie de chrétien, qu'est-ce qu'ils font? Ils les portent. Et ils ne voient pas une seule chose. Parce que vous imaginez, quand ils ont jeté ces choses, ça a allégé le bateau. Complètement, ça l'a allégé. Et souvent, nous, ça nous bloque dans notre progression. On est alourdi, complètement alourdi. On ne s'aperçoit même pas que parfois de vivre avec son passé, c'est comme une main qui nous retient. Alors que Dieu dit, lâche, lâche tout, lâche tout. Vous imaginez le bateau, quand ils ont tout jeté, il a dû remonter. Alors que là, il était complètement dans les flots, presque à un mètre du bord, risquant d'exploser. Et bien sûr, ils ont commencé déjà à se dire, on commence à faire les choses qu'il faut dans ce bateau. Ils ont commencé à voir le bateau réagir d'une autre façon, parce qu'ils avaient allégé, parce qu'ils avaient accepté de jeter ce qui était peut-être précieux aux yeux du commandant. Qu'est-ce qui est précieux ce matin dans nos vies, qu'on ne veut pas jeter et qui nous alourdit? Parce que c'est à nous. Parce que vous comprenez, si je ne l'emmène pas là-bas, Que va penser ma famille? Que vont penser mes amis? Mais que va penser Dieu? Que va penser Dieu quand il va nous dire, mais attends, je te voyais beaucoup plus loin, mais regarde où tu es aujourd'hui. Regarde tout ce que je suis obligé de faire pour te sauver la vie, alors qu'on n'a même pas conscience qu'on est en train de mourir. Pourquoi ils ont jeté toute la cargaison par-dessus bord? C'est parce qu'ils avaient conscience que s'ils ne le faisaient pas, ils allaient mourir. Est-ce qu'on a conscience ce matin qu'on peut mourir d'emmener ces choses dans nos vies au quotidien? Parce qu'on refuse de lâcher. Parce qu'on n'accepte pas que, ben oui, il faut que j'abandonne. Et pourtant, des fois, on chante. Ah, c'est beau quand on regarde. Moi qui vous le dis, je suis peut-être le premier à le faire. Hein. J'aime bien ce chant, abandonne, oui, j'abandonne. J'abandonne à toi. Et puis quand les gens ben, viennent voir un ancien, viennent voir un pasteur, ben, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses, qu'il n'y a rien d'abandonné. Et on a une remorque, on a un sac à dos, on a un 38 tonnes, un 40 tonnes derrière, qui nous suit avec tout ce qu'on a encore. Et puis, mais Seigneur, j'arrive pas à avancer dans ma vie de chrétien. Eux, ils ont pris cette décision, ils ont dit, on jette tout. Alors, de quoi qu'est-ce qu'il faut jeter? Qu'est-ce qu'il faut jeter? Parce que je suis en train de parler de bah oui, il faut jeter tout. Le péché dont on ne veut pas se détacher et qu'on vit avec complaisance. C'est-à-dire, bah, le Seigneur va agir un jour. À la femme adultère, Jésus a dit, va et ne pêche plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a conscience d'un péché. On dit, Seigneur, je te donne ce péché. Et on fait demi-tour. Alors que parfois, ben, on est bien dedans, tout va très bien, le Seigneur va agir un jour. On peut mourir, et le Seigneur n'aura jamais agi. Parce que le Seigneur va regarder une chose, c'est l'honnêteté de notre cœur. Il va regarder, oui Seigneur, je veux, j'en ai marre d'être comme ça. J'ai vécu une chose, et je vous l'ai déjà dit. Et tant que je n'ai pas dit, Seigneur, j'en ai marre d'être comme ça, le Seigneur n'a jamais agi. Et ça m'a emmené dans des profondeurs effroyables. Mais le jour où j'ai pris la décision de dire, j'en ai marre, Seigneur, agis. Et quand j'ai dit ça, j'ai fait l'opposé de ce que je faisais avant. Et c'est parti. Et c'est pas moi hein, qui l'ai enlevé. Parce que j'en aurais été incapable. J'ai été complètement aveuglé. Mais le Seigneur a enlevé. Et on en subit les conséquences, bien sûr, de ces péchés. Parce qu'on désobéit. En psaume 32, versets 3 et 4, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » C'est-à-dire, tant que j'en parlais pas avec le Seigneur, voilà, je vis dedans, tout va très bien. « Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée parce que j'étais conscient que j'avais ce péché sur mon cœur, parce que j'étais conscient que c'était une racine d'amertume. Toute la journée, c'était pas toute la journée, c'était toute la journée, parfois toutes les nuits. Se réveiller avec cette conscience de dire « il faut que je règle ça avec le Seigneur » et le lendemain, je me réveillais, « ça va aller, le Seigneur va agir. » Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. J'avais cette conscience de péché. C'est effroyable. J'espère qu'un jour, vous connaîtrez cette chose. Si vous avez un péché que vous avez du mal à évacuer, j'espère qu'un jour, que la main du Seigneur va s'appesantir sur vous. S'il fait ça, vous pouvez le remercier, parce que ça va vous sauver. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Moi, je parle ici de ma vigueur spirituelle. Elle chutait. Elle chutait complètement. Complètement. Et j'avais dans ma tête, le Seigneur va agir. Il n'a jamais agi. La deuxième chose, c'est un fardeau qui accable, afflige excessivement. Et là, en Lamentation 3, versets 19 et 20, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au dedans de moi. » On a parfois des fardeaux, des choses qui nous pèsent, des choses qu'on a du mal à partager et qu'on va traîner dans notre morgue, dans notre sac à dos, parce qu'on a du mal à le partager. Peut-être que ça nous touche personnellement. Peut-être que ça touche quelqu'un d'autre. Et on vit avec ça. Et le Seigneur dit, mais non, jette ça. Jette ça. Il faut t'en débarrasser. Encore une chose, les mauvaises habitudes religieuses qui empêchent et étouffent l'expression de l'esprit dans notre vie. Vous savez, tous les guirlandes, toutes ces choses qu'on met qui ne servent à rien. On voit dans la parole que « Montre-moi tes œuvres et je te montrerai ma foi ». Vous savez, c'est souvent qu'on oublie une chose, c'est que les œuvres découlent de la foi. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose que cette chose va nous sauver. Je peux faire les plus belles choses de la terre. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est la foi en Jésus-Christ. Ça va nous sauver. Et parfois, on a plein de choses qui sont complètement accessoires, qui ne servent absolument à rien. Et on oublie l'essentiel. On oublie la petite chaloupe, la méditation de la parole. On oublie la prière. On oublie la communion fraternelle. Parce qu'on vient peut-être au culte tous les dimanches. Parce qu'on vient peut-être aux études bibliques tous les mardis. Parce qu'on vient peut-être tous les vendredis aux réunions d'intercession. Parce que on fait. Parce qu'il faut faire. Le Seigneur s'en fiche royalement. Jésus-Christ, lui, a fait. Il a tout accompli pour nous. Il s'en fiche de ce qu'on fait. Quand je dis il s'en fiche, bien sûr, c'est une façon de parler. Parce qu'il regarde comment on vit. Mais lui a tout accompli pour nous. Il n'attend pas de nous quelque chose de fantastique. Il n'attend qu'une chose. Et on va le voir par la suite, c'est qu'on soit un jour avec lui, franc et honnête. Il attend que ça. Il ne va pas nous dire, ben voilà, vous avez à construire une église, vous avez à la remplir, et ensuite vous allez en construire une deuxième, vous allez annoncer la parole à droite, la parole... C'est peut-être absolument pas ce que l'Éternel attend de nous. L'Éternel attend une seule chose de nous, sois mon enfant. Matthieu 13, verset 7, c'est la parabole du semeur. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Est-ce qu'on a des épines ce matin dans nos vies? La dernière chose, qui n'est pas des moindres, c'est le superflu, le confort et l'aisance procurés par les biens matériels. Pardon. En 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Comment réagissent nos frères qui sont dans des pays où on les persécute, où ils vivent dans des maisons où il y a encore la terre au sol, où elle est faite de torchis, où ils récupèrent l'eau comme ils peuvent? Eux, ils n'ont que le Seigneur. Le superflu, en fin de compte, et les richesses, ce n'est pas un problème en eux-mêmes. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on bénéficie, souvent beaucoup oublient qu'on bénéficie de la grâce, de la bienveillance de Dieu, au travers de ces richesses que le Seigneur nous permet d'avoir. En 1 Timothée, chapitre 6, verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Le Seigneur n'est pas contre les richesses. Au contraire, il veut qu'on puisse en profiter. Il veut qu'on puisse profiter de ses largesses. On veut de tout ce qu'il nous donne, des nombreux bienfaits. Ce qu'il nous demande aussi, c'est de les gérer avec sagesse et intelligence. Qu'est-ce qu'on en fait de ces richesses? Et souvent, malheureusement, de cette abondance fait de nous des esclaves. On est esclave de ces richesses, esclave de l'argent. En 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Est-ce qu'on est esclave ce matin? Donc comme ces gens, on doit s'alléger ce matin. On doit jeter par-dessus bord tous les éléments nocifs et polluants qui sont dans nos vies. Je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher loin, on sait chacun ce qu'il y a de polluant, ce qu'il y a de nocif. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les reconnaître et les confesser à Christ, simplement. Vous allez dire, simplement. Ça veut dire qu'en faisant ça, ben j'accepte de tout jeter par-dessus bord. Si je confesse ces choses, ça veut dire que j'accepte de les prendre, de les jeter. Il faut établir ensuite une position de foi. C'est ça qui est le plus difficile. Parce que vous imaginez bien, quand ils ont fait ça, ils se sont dit, il y a deux solutions. Ou le bateau est encore plus léger, et là, c'est la mort assurée, ou alors, on a bien fait de le jeter par-dessus bord. Nous, on va se dire, ben oui, c'est le Seigneur qui m'a commandé de le faire. Je l'ai jeté, et on va se sentir tout de suite plus léger. Tout de suite plus léger. La position de foi, c'est de savoir que le Seigneur, à partir de ce moment-là, on a cette confiance de savoir que le Seigneur va agir dans la situation. Vous savez, c'est la différence entre quelqu'un qui attend, voilà, on attend, j'ai prié, j'attends, ou quelqu'un qui dit « je vais agir ». Et quand je dis « je vais agir », ce n'est pas la bougeotte, c'est-à-dire de prendre la décision de libérer sa vie, de mettre toute chose à la lumière de Dieu, toute chose à sa lumière. C'est ça la différence. Quand on accepte de mettre toute chose à la lumière, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va être léger. On va recevoir instantanément la paix. Parce qu'on va savoir et on va être persuadé que rien ne va plus entraver notre marche. Quand ils ont fait ça, ils avaient cette assurance que le bateau allait se lever et qu'il allait survoler les vagues. Et bien sûr, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Sain de la ceinture, allégé, le bateau s'est relevé et il a traversé la tempête. Bien sûr qu'ils ont été secoués. Bien sûr qu'ils ont subi des choses incroyables. Mais ils sont restés vivants. Il y a une dernière chose. Bien sûr, j'ai oublié de vous lire Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est ce qui va se passer. Si vous avez tout jeté par-dessus bord, que vous avez dit au Seigneur, bah, écoute, voilà, tu vois, j'ai fait le point, j'ai tout jeté, maintenant je te fais confiance. Voilà, la liberté est devant vous. Un point qui est essentiel et tout aussi difficile. Le troisième jour, le verset 19, c'est très important de lire ça. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Alors, quand on lit ça, nous on se dit, ouais, bah, ils ont jeté les agrès. Vous savez ce que c'est les agrès du navire? C'est tout ce qui sert à le diriger et le faire avancer. Ça veut dire qu'ils ont enlevé les voiles, ils les ont jetés. Ils ont enlevé le gouvernail, ils l'ont jeté. Tout ce qui servait à diriger le navire, tout ce qui servait à faire avancer au moyen du vent, les mâts, les voiles, ils ont tout cassé, ils ont tout mis par-dessus bord. C'est-à-dire que le navire était livré à lui-même, en plein milieu d'une tempête. Sur le plan spirituel, ça correspond à quoi ? C'est ce qu'on appelle ici le lâcher-prise. Se dire, bah, Seigneur, écoute, voilà, à partir de maintenant, je me tiens ici devant toi, je ne bouge plus. Je ne dirige plus rien. Je n'oriente plus rien. Je ne dépends que de toi. Imaginez, Alain pourrait l'expliquer, ce qu'est pour un marin d'enlever tout ce qui permet à conduire un navire. Qu'est-ce que ça représente pour un marin ? Et qui plus est en pleine tempête ? Il faut véritablement être gonflé. Mais ça prouve une chose aussi, c'est que ça les a poussés à l'extrême. Est-ce qu'on a besoin d'être poussé à l'extrême pour obéir à Dieu ? Est-ce que ce matin on a conscience de ça ? Est-ce que j'ai besoin d'être poussé à l'extrême pour obéir à Dieu ? Eux, ils ont été poussés à l'extrême. Pour un marin, enlever tout ce qui permet de diriger un bateau, c'est comme si vous montiez dans cette voiture, dans votre voiture maintenant, et moi, pendant le culte, je me suis amusé à démonter le volant. Il n'y a plus aucune direction. Vous ne pouvez plus aller ni à droite ni à gauche. Le bateau est livré à lui-même. Et en fin de compte, la cargaison jetée, les agrès jetés, il ne leur restait plus rien. Le bateau, il était sur la mer, livré à lui-même. Au milieu de la tempête. Est-ce qu'on fait ça, nous, quand on est au milieu de la tempête ? Est-ce qu'on lâche prise pour dire à Dieu, ben écoute, là j'en peux plus. C'est à toi. Maintenant, vas-y. Gère. Et c'est fondamental de prendre cette décision. De prendre cette décision de dire que, ben oui. J'accepte. J'accepte de tout lâcher. Ce qui est important dans ma vie, j'accepte. J'accepte de ne plus me diriger. J'attends. J'attends que tu répondes. J'attends que tu me prennes par la main et que tu me conduises. Ça demande une confiance parfaite. Ah bien sûr, qu'est-ce qu'il y a devant nous ? C'est le Seigneur. Le Seigneur qui nous accueille les bras grands ouverts. Vous vous rappelez l'histoire du fils prodigue ? Il est là, il nous a reconnus, il sait que c'est nous. Et il veut dire, maintenant que tu as fait tout ça, je vais t'accueillir. Et il va nous accorder à chacun un temps de repos. Après la traversée difficile, après cette tempête qui était monstrueuse, après à ce que nous ayons mis notre vie en danger, parce que c'est ça aussi. Accepter de mettre sa vie en danger. Le lâcher-prise, c'est ça. C'est accepter de dire, ben voilà, voilà. Quelqu'un qui a un haut rang social, qui accepte de s'humilier, qui accepte de tout lâcher-prise devant le Seigneur, vous imaginez ce que ça ferait ? Et pourtant, c'est ce que l'Éternel nous demande de faire. Alors le troisième jour de la bourrasque, ça vous dit rien le troisième jour ? Qu'est-ce qui se passe ? Les membres d'équipage sont plongés dans une obscurité incroyable. Il faisait noir. La tempête était encore là, mais ils connaissent en fin de compte une sorte de mort qui les environnait. Toutes ces ténèbres. Et bien sûr, humainement, on aurait pu penser que c'était dramatique. Ils étaient actuellement, et là, à ce moment très précis, incapables de faire quoi que ce soit. Et ça nous rappelle Jésus-Christ, bien sûr. Jésus-Christ qui a été mis dans le tombeau. Mais avant, il a subi les conséquences des désirs de son Père. Bien sûr, il a accepté. Il a obéi à son Père. Il a été mis dans le sépulcre pendant 3 jours. Et le 3e jour, gloire à Dieu, il est ressuscité. Il a vu la lumière. Et aujourd'hui, il est en nous, avec une action vivifiante au travers de son Saint-Esprit. Paul et ses amis ont expérimenté ces choses. Ils se sont trouvés dans les ténèbres, ils se sont retrouvés dans une tempête monstrueuse. Bien sûr, Paul savait l'issue, mais les gens qui l'entouraient, qui n'étaient pas chrétiens, qui n'avaient aucune conscience de Dieu, ne savaient pas l'issue, ne connaissaient pas l'issue. C'est-à-dire qu'il allait être indemne et mené à bon port. On est chacun, ce matin, appelé à passer par la mort, et vous le savez bien. On est appelé à mourir à nous-mêmes. On est appelé à connaître cette nouvelle nature dont il est parlé dans la parole. On doit perdre cette nature charnelle, mais il y a toutes ces choses à faire avant, où il faut passer par-dessus bord toutes choses, où il faut couper les agrès de nos vies, où il faut se laisser porter et guider par l'Éternel. Et bien sûr, en retour, en ayant reçu toutes ces choses, on reçoit cette vie éternelle qui est promise en Jean 3,16. Mais le plus difficile est à faire avant. En Jean 10,10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est ce que le Seigneur veut nous donner ce matin, la vie. Alors si tu sais que ce matin, tu n'as pas la vie, il faut prendre les décisions de tout jeter par-dessus bord, d'entrer la chaloupe, surtout avant, la première chose, entrer la chaloupe. Ensuite, tout jeter par-dessus bord, toute chose par-dessus bord, même les choses les plus précieuses. Parce que dans ce bateau, il devait y avoir des choses précieuses. De dire, ben écoute, je jette tout. Tout, je jette tout. Et ensuite, couper. Ce qui fait que c'est moi qui dirige ma vie. Je coupe tout. Et je m'abandonne entre tes mains. Et bien sûr, on va connaître une issue favorable. Et il y a un truc quand même intéressant. Ils sont demeurés un long moment dans l'angoisse, la crainte, et jusqu'au point d'être pratiquement certain de ne pas être sauvé. Au verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Vous imaginez, c'est celui qui écrit, qui dit « nous perdîmes ». Il n'a pas dit « ils ont perdu tout espoir ». Il se met dedans. Ça montre l'extrême désespoir de ceux qui étaient dans le navire, aussi bien les convertis que les inconvertis. C'est-à-dire qu'on peut être amené à des situations où même nous, enfants de Dieu, on va connaître le désespoir. Jusqu'à douter peut-être même de notre salut. Jusqu'à douter du fait d'avoir été sauvé. Mais c'est Luc qui a le courage de dire qu'ils ont perdu tout espoir. Et il est préférable, bien sûr, de se mentir. Il est préférable d'éviter de se mentir et de se mentir à soi-même et de mentir à Dieu. Il n'y a rien d'affligeant de dire au Seigneur, écoute, j'ai peur. J'ai peur que dans cette situation-là, je ne m'en sorte pas. L'Éternel comprend. Il est difficile et parfois dangereux de dire que, bah oui, malgré tout ça, je contrôle encore la situation, malgré tout ça, je ne perds pas le contrôle, alors que ce n'est pas vrai. C'est extrêmement dangereux. C'est bien de dire parfois, bah écoute, je me sens incapable devant cette situation, je suis désolé, je me sens incapable. Ça veut dire qu'on ne se met pas à la place de Dieu. Ça veut dire qu'on dépend de Dieu. Et l'Éternel apprécie qu'on soit transparent dans ces choses-là. Il apprécie qu'on soit vrai, qu'on soit honnête et qu'on réalise tout compte fait qu'on dépend réellement de lui. C'est ça, on est amené à ces choses pour s'apercevoir qu'on dépend de lui. En Colossiens chapitre 3 verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » C'est-à-dire, soyez comme Christ, qui a tout subi. Il a tout subi. On est appelé à tout subir. Ce qui est fantastique, c'est de savoir que quand l'Éternel sait qu'on est dans la détresse, et Arlette peut en témoigner, il ne nous abandonne jamais. Jamais. Même si au plus profond de la tempête, on a l'impression qu'il nous a abandonnés, on a l'impression peut-être que c'est une punition, alors que c'est absolument pas la pensée de l'Éternel. C'est pour nous amener encore plus loin. C'est pour nous alléger de tout ce qui nous a alourdi. Mais il ne nous a jamais abandonnés. Son plan pour nous est bienveillant. Il est puissant. Il est capable de vaincre, et c'est ce qu'il a fait ici, la plus grande des tempêtes. Parce que c'est lui qui commande les tempêtes. On va lire le 23, du verset 23 au verset 26. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Il envoie un ange pour dire à Paul, t'inquiète pas, toi et tous ceux qui vont être dans ce navire vont être sains et saufs. Voilà. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentations 3, versets 25-26. On est parfois souvent dans ces moments où on crie, on hurle, on gesticule, alors qu'il suffit simplement d'attendre le secours de l'Éternel. Là, vous imaginez que le bateau était encore secoué de tous les côtés. Ils s'étaient dit, on va mourir. Et d'un seul coup, un ange apparaît, il lui dit, Paul, je te rassure, tu ne vas pas mourir. Toi, ni aucun de ceux qui vont être dans le bateau. Ah, bien sûr, ils devront en aucun cas quitter le bateau. En aucun cas. Et ils vont faire échouer, bien sûr, le bateau. Et ils seront sains et saufs. Au verset 44, donc je vais lire avant, « Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelques-uns d'entre eux ne s'échappent à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris de navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre, sains et saufs. » C'est le but de l'Éternel, qu'on arrive sur sa terre, la Nouvelle Jérusalem, sains et saufs. Il est possible que ce matin, on est dans le même cas que Paul et ses congénères dans ce bateau. Il est possible qu'on subisse peut-être injustement des mauvais choix parce qu'on a été guidé par une voix humaine, parce qu'on a été guidé par nos pensées. Il est sage ce matin de prendre les mêmes décisions que cet équipage a pris. Les mêmes décisions. je ne vais pas les répéter, on les sait, on les connaît ce matin. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule personne qui est capable de changer le cœur des gens, c'est Dieu. Même nous, on est incapable de se changer nous-mêmes. On a des décisions à prendre ce matin, des décisions qui peut-être sont graves, parce qu'on ne sait peut-être pas que la tempête arrive, et la tempête va être énorme, énorme. Il est judicieux de se remettre à la grâce de Dieu, de savoir qu'on a un Dieu qui écoute, de savoir qu'on a un Dieu qui est patient, mais de savoir aussi qu'on a un Dieu qui sauve. Ces gens ont été sauvés parce qu'ils ont obéi, parce que pour une fois, ils ont écouté Paul. Ce n'était pas Paul qui parlait, bien sûr, c'était l'Éternel qui parlait au travers de Paul. Ils ont obéi. Le résultat, c'est quoi? Ils ont été sains et saufs. Alors qu'un autre bateau, sans Paul à l'intérieur, sans la grâce de Dieu, se serait explosé. Bien avant cela, au premier jour de la tempête. Là, ils ont traversé toute une monstruisée de vagues, de vents qui les a chamboulés. Ils ont tout vidé. Tout. Ils ont tout coupé de telle manière à se retrouver sous la dépendance de cette tempête pour voir la main de l'Éternel les prendre, les soulever et les amener plus loin. C'est ce que veut faire l'Éternel ce matin dans vos vies, veut vous prendre, vous lever de là où vous êtes aujourd'hui et vous amener plus loin. C'est l'espoir que nous a donné Jésus-Christ en mourant sur la croix. Amen. Merci Seigneur pour la puissance de ta parole. Seigneur, il y a souvent des choses simples que nous lisons, mais tellement difficiles à prendre comme décision. Évacuer nos vies des poubelles qui traînent. Seigneur, que ce matin, par la puissance de ton esprit, tu parles, Seigneur, que tu puisses montrer clairement ce qu'il y a jeté par-dessus bord. Seigneur, tu veux alléger les cœurs ce matin. Tu veux donner ta paix. Seigneur, que tu puisses couper les agrès de nos vies, afin que c'est toi qui nous diriges, qu'on devienne dépendant de ta bienveillance, Père. Seigneur, tu es Dieu et rien ne prévaut sur toi parce que tu conduis même les tempêtes, les plus effroyables qu'elles soient. Et parfois on est obligé d'y entrer parce qu'on est désobéissant, parce qu'on est aveugle et tu as besoin de nous faire traverser ces tempêtes. Seigneur, je te glorifie parce que malgré tout tu emmènes au bon port tout enfant qui s'humilie devant toi, Seigneur. Amen.